Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les petits débats de Jojo en direct ou en podcast. Aujourd'hui, de 8h à 9h, nous allons traiter des sujets suivants. Innovation technologique, les gilets jaunes, le PSG peut-il se qualifier ? Pour commencer, parlons de l'innovation. En effet, nous avons tous dans nos poches un téléphone portable où nous pouvons activer le GPS. Il est donc vrai que nous sommes dans une période riche en innovation. Mais selon certains faits, nous sommes également dans une période transitoire. Alors, peut-on continuer à innover comme nous le faisions depuis ces dernières décennies ? L'homme est-il fait pour innover ? Nous attendons toutes vos réactions sur Twitter ou Facebook avec le hashtag DébatJojo ou 3630. Pour débattre aujourd'hui, sur ce premier plateau, nous avons Monsieur René Lambda. Bonjour René.
Bonjour.
René est un des pionniers à s'être fait opérer par un robot. Il paraît que c'est une opération délicate au lobe crânien. Elle s'est heureusement bien passée, n'est-ce pas René ?
Tout à fait.
Il pourra alors nous témoigner de cette intervention majeure. À ses côtés, nous avons la chance d'accueillir Richard McGilton. Bonjour Richard.
Bonjour.
Monsieur McGilton est en escale ici entre l'Angleterre et les États-Unis. Selon le dernier magazine Info Entreprise, ils seraient les détenteurs des industries les plus grimpantes en bourse. On dit que c'est lié à l'automatisation. Il pourra donc nous donner son approche industrielle du sujet. Je suis également fier de vous présenter l'ex-premier ministre de la Lituanie, monsieur Paul Ittig.
Enchanté.
Bonjour Paul. Il défend maintenant sa place au Parlement européen. Il est parmi nous afin de nous présenter la thèse de son livre, Un pays délaissé. Si je peux me permettre de résumer, l'innovation va trop vite. C'est ça, monsieur Ittig ?
C'est exact.
Pour finir, le fameux chercheur Didier Lefebvre. Bonjour Didier.
Bonjour, merci pour l'invitation.
Alors, monsieur Lefebvre est connu pour ses prouesses en recherche d'énergie renouvelable et fait partie du groupe de chercheurs Énergie pour nos enfants. Il vient témoigner au nom de son laboratoire pour nous affirmer que nous utilisons beaucoup trop d'énergie fossile et que la planète Terre est en danger. C'est bien ça ?
Oui, c'est exactement ça.
Alors messieurs, pour commencer ce débat, j'aimerais vous poser d'abord une question. Est-ce que vous pouvez me définir, selon vous, qu'est-ce que l'innovation ? S'il vous plaît.
Je pourrais définir ça pour, d'un point de vue politique, mais en même temps général. L'innovation technologique, merci beaucoup. C'est quelque part en fait la création de l'homme qui lui permet d'évoluer, de satisfaire ses besoins, d'avoir un confort de vie. Sauf que aujourd'hui, nous allons beaucoup trop loin et nous recherchons des moyens quelque part de calmer notre évolution. Et c'est là où l'innovation technologique est très dangereuse.
D'accord, est-ce que vous voulez réagir ?
Oui, bah pour nous industriels, l'innovation c'est plus de rapidité de production, donc plus de rentabilité, donc c'est bénéfique pour nous industriels.
Ensuite, vous Didier Lefebvre, qu'est-ce que c'est pour vous l'innovation ?
Pour moi, l'innovation c'est la découverte et l'amélioration de certaines techniques pour améliorer les conditions de vie de l'homme. Cependant, il faut toujours faire attention à notre santé et à la santé de la planète, et c'est bien ça le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup trop de pollution et qu'on n'arrive pas, enfin, on ne pourra jamais revenir en arrière.
Et vous donc, monsieur Lambda ?
Bah, pour nous les citoyens, l'innovation est devenue quelque chose de très important dans la vie de tous les jours. L'innovation doit rendre la vie plus facile à vivre. Par exemple dans la santé, moi qui ai été opéré, ça m'a permis de survivre alors qu'il y a de ça 10 ans je serais mort. Donc l'innovation a pour but d'augmenter soit l'espérance de vie, soit tout simplement la qualité de vie partout dans le monde, et pour moi je suis 100% pour.
Donc ensuite, le 7 octobre dernier a eu lieu la fête de la science, et la problématique était la démocratisation de la science. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Ittig ? Est-ce qu'il ne faut pas partager la science, partager le savoir entre les pays ? Non.
Aujourd'hui, on atteint un seuil où de non-retour pour la planète, pour les hommes, pour nous qui vivons sur cette planète, nous la détruisons à cause de toutes ces industries, de toutes ces innovations technologiques qui nous poussent toujours à aller plus haut, mais à quel prix ? Et effectivement, est-ce qu'il vaudrait mieux aujourd'hui avoir un partage complet de toutes ces connaissances, ou garder comme on fait aujourd'hui dans un système plus démocratique, enfin moins démocratique justement.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, monsieur Lefer, sur le nouveau recherche?
Pour l'instant, je suis totalement d'accord parce que, en fait, le problème, c'est que tous les pays ne partagent rien du tout. Et c'est pour ça que c'est la course à l'industrialisation. Et c'est bien ça le problème, c'est que tout le monde.
Toujours plus haut.
Toujours plus vite. Oui. Toujours. Et donc, il faut consommer beaucoup plus. Et c'est bien ça le problème. Les recherches pour les énergies renouvelables sont pas du tout assez.
Donc, on se rendrait pas compte qu'on fonce droit dans le mur, en fait.
C'est un peu ça. En fait, on produit beaucoup plus, mais on voit pas les conséquences qu'il y a sur la planète. C'est mieux ça le problème.
Permettez-moi d'intervenir. Vous dites que vous ne voyez pas les conséquences, mais moi, je les vois les conséquences, car j'ai été opéré par un robot. Et pour moi, nous devons partager ces connaissances, car j'ai eu la chance de naître dans un pays comme la France, qui a un savoir, de l'argent et plein de possibilités d'innovation. Mais des pays moins développés, comme les pays du tiers-monde, n'ont pas ces possibilités. Et pour moi, on devrait partager ces innovations. Certes, il y a des risques pour l'environnement, mais pour l'homme, nous devons le faire.
Bien sûr, je ne dis pas que toutes les innovations sont mal, mais une grande partie utilise beaucoup trop les ressources de notre planète et pollue beaucoup.
C'est certain, aujourd'hui, on a des pays dans le monde qui consomment que des énergies fossiles, comme les États-Unis, la Chine sont les seuls aujourd'hui quasiment à avoir des mines de charbon encore actives. Nous en avions en France, nous les avons toutes fermées. Nous sommes obligés aujourd'hui de préparer une transition qui est certaine.
Et monsieur McGilton, niveau industriellement parlant, comment peut-on décrire ça?
Le problème du partage de l'innovation, c'est que certains pays vont beaucoup plus vite que d'autres. Et pour moi, partager les connaissances, enfin se réunir tous les pays pour avancer ensemble, ça serait plus un frein à l'innovation qu'un moteur, parce que il y a beaucoup de pays qui sont très peu développés et ces pays-là freineraient les pays très développés.
Donc les conséquences économiques seraient désastreuses selon vous?
Ouais, on mettrait plus de temps à acquérir la même chose alors qu'aujourd'hui on l'acquérit en moins de temps, donc ça coûte moins d'argent, donc
Mais on avance plus vite. Vous laissez des pays encore plus plongés si vous avancez.
Non. Et on peut avancer et eux suivre derrière, mais ils suivront pas au même rythme, mais ils avanceront aussi.
D'accord. Alors attendez, on me dit qu'on a déjà reçu un appel, donc on va écouter.
Alors moi c'est Gérard, je suis vendéen, j'ai 92 ans et maintenant à Pouzauges, la boulangerie elle est fermée et c'est un distributeur. Je comprends pas trop comment ça marche et je comprends pas non plus pourquoi on remplace nos métiers.
Donc alors oui Gérard. Donc Gérard, ce que vous voulez dire c'est que vous êtes remplacé, les métiers sont remplacés par l'automatisation, par les intelligences artificielles notamment, ou l'automatique. Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur McGilton? Doit-on automatiser tout ce qu'on fait?
L'avantage dans ce cas-là des distributeurs de pain, c'est que vous pouvez à tout le monde de la journée avoir du pain frais, alors que le boulanger lui est réduit à des horaires, ce qui est normal puisque il a quand même le droit à du repos. Mais là c'est quand même un avantage, c'est qu'on peut avoir du pain à n'importe quelle heure et c'est quand même un avantage de l'automatisation.
Oui, mais est-ce que au niveau éthique c'est pas quand même un frein dans notre... On a toujours été liés les uns aux autres, nous les humains. Est-ce que maintenant être lié à des machines, c'est pas un problème?
Le pain est fait par des boulangers, donc il est quand même fait par des humains derrière. Donc...
Oui, mais le boulanger, quand on va à la boulangerie, on achète notre pain, il y a quand même un contact humain.
Oui. Après, je sais pas si vous restez très longtemps parler avec votre boulanger, quoi. Vous lui dites bonjour et puis...
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Etty?
Le problème, c'est que là, on est sur une automatisation de petite échelle, mais qui va qui engendre encore une fois la folie de l'homme et sa folie des grandeurs de création, s'améliorer. Là, par exemple, la baguette de pain, nous améliorons notre qualité de vie, notre confort. Nous pouvons aller chercher notre baguette à 1 € au distributeur à côté. Elle est limite, il y en a maintenant qui les réchauffent. Il y a des distributeurs qui réchauffent. On peut avoir aujourd'hui de la même manière des pizzas qu'on peut aller chercher à n'importe quelle heure, ça nous le réchauffe et voilà. Mais on perd un contact humain, un problème éthique se pose, Et est-ce vraiment utile, du coup? Là est la question.
Qu'est-ce que vous en pensez, monsieur Lefer, sur l'automatisation?
Le problème, c'est que, comme l'a dit monsieur Malgilton, en fait, le boulanger a le droit à du repos. Le seul problème, c'est que il faut toujours avoir du pain dans la machine, forcément. Mmh. Et c'est, en fait, on remplace juste la vendeuse qui elle, fait son travail, on la remplace par sa machine.
Tout à fait.
La machine, donc, c'est pas du tout le boulanger qu'on remplace, c'est justement la vendeuse qui, elle, aime des fois échanger avec l'acheteur.
Tout à fait. Donc il n'y a plus le contact humain.
Il n'y a plus du tout le contact humain. Pas de problème.
Oui, monsieur Lambda.
L'innovation dans l'automatisation est importante, par exemple dans des secteurs comme l'entreprise, où des tâches dangereuses sont remplacées par des robots. Donc là, c'est un point positif. Certes, il y a des points négatifs dans l'automatisation, comme le remplacement de personnel et le manque de contact humain, mais on a une transition à faire et je pense que l'humanité, l'homme en général, s'accoutumera.
Est-ce qu'au final, on perd pas nos métiers en automatisant tout?
On en perd forcément, mais on en crée d'autres. Il y a forcément une perte des métiers. Par exemple, là, dans ce cas-là, il y aura moins de vendeuses, évidemment, puisqu'il y a des distributeurs. Mais est-ce que ce métier est fait par... je pense que dans certains cas, il est fait par envie, mais je pense plus que c'est une nécessité d'avoir un travail. Et c'est pas forcément un plaisir d'être vendeuse ou, par exemple, dans notre milieu...
Oui, mais si c'est maintenant un automate, il n'y aura même plus de métier pour la vendeuse.
La vendeuse pourra se reconvertir dans d'autres métiers. Après, c'est pas forcément un problème en soi.
Le seul problème, c'est que, en fait, il faut forcément avoir plus de diplômes. Et le problème, c'est que il y a des personnes qui ne veulent pas forcément beaucoup étudier, qui préfèrent directement aller vers un métier professionnel.
Si je peux me permettre, il n'y a pas forcément besoin de diplôme. Nous, on forme nos personnes.
Je ne pense pas que tout le monde puisse aller régler une machine.
Il existe des formations pour ça. Il n'y a pas à la base.
Donc il faut un diplôme.
Certains de nos ouvriers rentrent sans diplôme, par exemple avec un brevet des collèges, et on les forme. On les forme pour qu'ils puissent utiliser la machine convenablement, mais ils n'ont pas forcément de diplôme, ils ont juste une formation.
Je suis d'accord avec monsieur McGilton, car certes, la vendeuse a perdu son emploi, mais ça en a créé d'autres derrière. Par exemple, la personne qui est pour l'entretien de la machine, les personnes qui ont construit la machine, le boulanger qui a quand même perdu son travail, car il doit quand même produire le pain, les personnes qui apportent le pain à la machine. Donc certes, des anciens métiers comme... les vendeurs qui ont un contact humain disparaissent, mais d'autres métiers dans l'automatisation et la robotisation se créent. Donc je pense qu'il y a des pour et des contre dans l'automatisation, mais plus de pour.
Donc si l'humain fait que créer des machines et des automates, est-ce qu'on remplace pas la force humaine, l'énergie humaine, par de l'énergie électrique? Est-ce qu'il n'y a pas un problème pour l'énergie aussi?
T'es certain? Juste pour rebondir sur... ce que disait monsieur Lambda juste avant, effectivement, ce sont des métiers en contact humain qui disparaissent, mais c'est aussi des métiers avec des qualifications manuelles, par exemple. Le boulanger, si demain il est remplacé, d'ici 20 ans, qui aura les qualifications pour être boulanger, pour avoir la qualité de ses mains et faire ce métier?
Justement, c'est là qu'intervient... l'automatisation, elle va se perfectionner d'année en année, et il n'y aura plus besoin du savoir-faire du boulanger, puisque la machine sera meilleure que le boulanger, en tout point.
Oui, je suis bien d'accord avec vous. Cependant, on pourra automatiser tout ça, mais cependant, il y a des recherches qui ont été faites que les matières premières qu'on utilise pour utiliser ces machines, dans 30-40 ans maximum, il n'y en aura plus. Donc il faudra forcément chercher une autre solution pour... Il faudra revenir en arrière, je pense. C'est bien ça le problème.
Pour moi, c'est là qu'intervient l'innovation en général. Pour l'instant, on n'est pas capable de créer des machines à 100% recyclables, mais je pense que dans quelques années, on va pouvoir créer des machines qui, arrivées à leur... un âge où elles seront hors d'état, on pourra les recycler et créer d'autres machines, et ça sera une... Un cycle, et les machines pourront...
Vous pouvez donc rejoindre le tweet sur le hashtag débat jojo de Guillaume. Salut, faut-il revoir les ambitions humaines du rush à la découverte? Donc c'est exactement ça. Est-ce qu'il faut-il continuer à tout le temps innover? Est-ce qu'à un moment donné, on peut pas s'arrêter et dire stop?
Pour moi, on doit continuer car certes, il y a une transition à faire, sauf que si on s'arrête maintenant, tous nos efforts seront perdus. Si on s'arrête maintenant, nous retombons à des innovations qui sont 100 ans en arrière et personne ne veut se priver de ces innovations. Donc on doit continuer, on a une transition énergétique à faire et l'innovation fera son travail.
Si je peux intervenir, je suis d'accord que là, nous avons, avec l'innovation, pollué énormément la planète et certaines conséquences sont réversibles. Mais si on n'innove pas, comme le disait Monsieur Lambda, tout ce qu'on a fait, on va le perdre. Et surtout, on ne va pas pouvoir trouver de solution pour polluer moins. Donc on va rester si on s'arrête maintenant, on va rester dans l'état où on pollue, on a innové, mais on pollue et on sait pas ne pas, pas polluer, quoi.
Oui, mais si on arrête et qu'on se dit, bon, maintenant on recycle ce qu'on a créé et ça évite la pollution.
Donc il faut innover pour recycler. On ne sait pas recycler aujourd'hui, donc il faut innover.
Si je peux me permettre, je pense pas qu'il faille arrêter l'innovation. Il faut la réguler. Il faut penser intelligemment lorsqu'on innove. Est-ce qu'on a réellement besoin de cette innovation? À qui elle va profiter? Est-ce que c'est un surplus pour notre qualité de vie d'aujourd'hui dans une société de consommation? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va être réellement utile, qui va nous permettre justement de pouvoir recycler certains produits, etc. Oui. Je pense que la question est plus là. On ne peut pas stopper l'innovation technologique. On innove depuis l'âge de pierre.
Mais on pourrait arrêter, par exemple, comme vous dites, les innovations inutiles.
Après, ça, c'est le consommateur qui définit si c'est inutile ou pas.
Et les industriels?
Oui, les industriels. Parce que
les industriels vont innover, et si personne derrière suit, ils vont arrêter d'innover. C'est le consommateur qui définit ça. Vous voyez bien avec Apple aujourd'hui, vous pouvez acheter des téléphones à 1 600 €. S'ils continuent à se vendre, c'est parce que le consommateur accepte. Donc ils augmenteront jusqu'à ce que le consommateur n'achète plus. Ça, c'est le consommateur qui décide.
Oui, mais si l'industriel a quand même la main sur le marché, s'il décide de ne pas créer le téléphone.
Si personne n'achète derrière, il va bien décider d'arrêter, puisque ça va pas être rentable pour lui.
Donc, monsieur Lambda, vous avez été opéré au lobe crânien, donc pour vous, l'innovation est quand même quelque chose de fantastique. Est-ce que vous pensez qu'il faut quand même stopper l'innovation ou la réguler?
Il ne faut pas stopper l'innovation. Oui, certes, il faut la réguler, car il y a des contraintes environnementales et énergétiques à respecter, mais des contraintes telles la santé, il ne devrait pas en avoir. La santé, c'est quelque chose de primordial dans la vie de tous les jours. Si j'avais eu mon accident il y a 10 ans, je serais mort. Aujourd'hui, grâce à ces robots et cette innovation, j'ai pu être opéré, et peut-être d'ici quelques années, tout le monde, partout dans le monde, pourrait être opéré de liaisons aussi graves que la mienne. Donc je suis l'un des premiers à être opéré par robot, mais j'espère que je ne serai pas le seul et que d'ici quelques années, ça sera démocratisé partout dans le monde et que cette innovation sera un plus pour la médecine.
D'accord, donc tout à fait. Donc alors, si je résume, il faudrait continuer à innover, mais dans certains secteurs d'activité, en fait, et réguler d'autres... Qu'est-ce que vous en pensez? Au niveau industriel, on ne peut pas se permettre de...
Pour nous, industriels, on ne peut pas... Dans notre secteur, on ne peut pas ne plus innover ou se brider dans l'innovation, c'est pas possible. Faut qu'on reste concurrentiel et derrière les pays comme la Chine ou le Japon innovent aussi et c'est une course entre nous et ces pays-là et on doit continuer à rester leader. Donc pour nous industriels, faut continuer. Après, c'est vrai que dans certains secteurs, va falloir qu'on pense à limiter l'innovation, parce que bon, c'est vrai que pour la planète, c'est pas toujours...
Oui, donc vous avez quand même conscience que...
Tout à fait.
D'accord.
Pour moi, vu les contraintes aujourd'hui, des innovations devraient être plus centrées sur certains domaines. Par exemple, l'innovation énergétique, passer des énergies fossiles à l'énergie électrique ou autre, est un domaine primordial. Si nous continuons sur cette voie à exploiter notre planète et utiliser des énergies fossiles, La vie sur Terre va disparaître d'ici quelques centaines d'années, donc c'est quelque chose de primordial à faire. D'autres innovations, je n'ai pas d'idée particulière, mais négligeables, pour moi, on devrait concentrer toute nos technologies, notre attention sur la santé, l'environnement, les nouvelles énergies.
Oui, mais est-ce que c'est pas un cercle comme une spirale? En fait, on cherche à innover, on trouve que c'est pas bien, du coup on innove pour trouver que c'est pas bien, et puis on retombe dans un cercle en fait. Bah, est-ce qu'il faudrait pas changer les choses, je sais pas.
C'est certain, c'est une course sans fin. Si personne court, il n'y a pas de course, mais aujourd'hui il y a les industriels qui courent, donc il y a la course. Et...
on court parce que le gouvernement nous permet de courir.
C'est exact, c'est exact. On ne peut pas freiner ça. Après, par exemple, vous parliez d'énergie renouvelable, qu'il faudrait continuer à investir dedans pour innover, etc. Seulement 0,42% des brevets de 2003 à 2005 représentaient les brevets d'énergie renouvelable. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer, là où, par exemple, on va avoir...
Est-ce que le gouvernement nous contraint à innover ?
Le nucléaire à 0,45%.
Bah, nous on n'a pas de contrainte spéciale dans les brevets à avoir tant de pourcents par an dans des brevets écologiques, donc on ne le fait pas.
Non, vous avez des normes ISO à respecter.
Oui, bon, on les respecte.
Voilà, ouais. Donc le gouvernement...
Nous, si on n'a pas de contrainte, on ne va pas se forcer à se contraindre. Hein.
Ouais, c'est certain.
Du coup, si nous voulons utiliser de plus en plus les énergies renouvelables, le problème, c'est que... le budget lié à la recherche est vraiment infime. Il est de 23,85 milliards en 2017. Et c'est beaucoup trop infime par rapport au budget qu'on peut donner à l'industrie, par exemple.
D'accord.
Qui, elle, pollue, alors qu'on demande toujours de rechercher les solutions pour avoir des machines qui polluent moins.
Qu'il ne faut pas centrer
notre... Si on n'a pas assez d'argent pour la recherche, on ne pourra pas.
Ouais. Du coup, monsieur Dillefer, qu'est-ce que vous proposez pour augmenter ce budget dans l'innovation, parce que pour l'instant tout est une question d'argent, mais si nous disposons de cet argent, qu'est-ce que nous pourrons faire concrètement pour améliorer cette transition énergétique?
Bah, si vous avez les solutions, je suis tout oui, parce que en fait justement, si on n'a pas le budget, c'est la répartition du budget qui est mal organisée. On ne peut pas faire les recherches qu'on veut, donc la recherche ralentit en fait. C'est bien ça.
Donc selon vous, la santé de la planète dépendrait de l'argent, de l'économie, tout simplement?
Non, pas du tout. C'est dépend juste des solutions qu'on peut chercher, mais ces solutions, il y a forcément besoin d'un apport financier.
Ouais, donc ce que veut dire Didier Lefer, c'est qu'on en fait, on se donne pas les moyens de chercher.
Du coup, qui devrait se donner les moyens? Ce n'est pas nous, citoyens, qui allons donner le tout petit salaire que nous avons. C'est soit aux industriels ou aux politiciens, à l'État, de donner plus.
Mais après, si je peux me permettre, la démarche écologique pour elle est de tout le monde. Chaque citoyen doit faire si chaque citoyen fait sa petite part pour l'écologie, à un moment donné, ça va peser lourd.
Bah, j'aimerais bien m'acheter une voiture électrique, sauf que pour l'instant, ça coûte une fortune et je n'ai pas les moyens de m'acheter une voiture électrique.
Oui, après, vous n'êtes pas obligé de partir pour par exemple les voitures électriques. Si par exemple vous recyclez tous vos déchets, etc., vous allez vous rendre compte que si tout le monde le fait, ça va changer.
Mais c'est pas à moi de
recycler. Justement, le problème c'est le tout le monde. Si on est tout seul à agir et qu'on voit que personne ne fait rien, c'est à quoi ça sert de agir?
Monsieur Lambda, vous dites c'est pas à moi de recycler, c'est à tout le monde de recycler.
Oui, mais c'est pas moi qui vais recycler moi-même mon produit. Je le mets dans la bonne poubelle, dans le compost, la poubelle jaune.
Est-ce qu'il faut pas que ce soit justement les.
Si le gouvernement. Impose des sanctions aux personnes qui ne recyclent pas, je pense que plus de personnes ne recycleront.
Mais est-ce que justement c'est pas les industriels ou les grands groupes qui auront cette obligation de recycler, et du coup ça donnera l'envie à tous les usagers de recycler également, hein. Parce que si ça part des citoyens, on pourrait se dire que par exemple monsieur Lambda se met à recycler, mais personne autour de lui recycle, à quoi ça sert?
Je suis d'accord, ça devrait partir d'une initiative de l'État ou des entreprises. Et si l'État propose un système pour mieux recycler tous nos produits, les citoyens suivront. Mais c'est pas aux citoyens de mettre en place le système, c'est au gouvernement de mettre en place un système de recyclage. Et
si je peux me permettre, je pense que le système est déjà là quand même. On propose pas mal de choses, des subventions justement pour des voitures électriques, pour des panneaux solaires sur son toit, etc. Je pense qu'il y a aussi une volonté propre à chacun de le faire ou pas. Mais c'est certain que si personne ne le fait aujourd'hui, c'est parce que les gens n'ont pas envie de le faire. Forcément, il faut qu'ils se rendent compte que c'est maintenant et c'est à tout le monde de le faire, maintenant.
Surtout, ils le font pas parce qu'ils sont pas sanctionnés s'ils le font pas. Personne ouais. Vient leur taper sur les doigts. Donc.
Ouais, mais ils sont majeurs. Hein.
Monsieur, donc, pour vous, il faut taper sur les doigts des gens, en fait.
Comment ? Monsieur ?
Pour vous, il faut taper sur les doigts des gens.
Bah, pour qu'ils comprennent, oui.
Monsieur McGinton, connaissez-vous le prix d'installation des panneaux solaires ?
Oui.
C'est une somme astronomique. Comparé aux subventions que nous recevons, et je ne peux pas sortir une somme aussi importante de ma poche pour pouvoir installer ces panneaux solaires. Vous dites que ça, qu'on devrait... Je suis conscient des contraintes énergétiques dans le monde, mais je ne peux pas personnellement installer ces panneaux solaires.
Mais je sais pas si vous avez étudié un petit peu la rentabilité de ces panneaux. Au bout de 10 ans, vous allez les avoir remboursés, vos panneaux.
Je sais qu'au bout de 10 ans, mais sauf qu'aujourd'hui, je ne peux pas les payer. Dans 10 ans, oui, je pourrais.
Cependant, mais s'ils ne tiennent pas 10 ans, le problème, c'est qu'il faut les remplacer et on ne peut pas tout recycler. Donc c'est bien ça le problème. On peut les utiliser, mais après, au bout d'un moment, il y aura forcément du déchet quelque part.
Donc il faudrait trouver quelque chose qui n'est pas cher, dure dans le temps et qu'on peut recycler.
Tout à fait.
Une belle parole.
Donc alors, si je peux me permettre de conclure, nous pouvons dire qu'il est temps de s'inquiéter, mais que l'homme ne cessera jamais d'innover. Alors, il faut trouver une solution durable au problème. C'est bien ça ?
Oui,
tout à fait. Donc voilà, donc je tiens à remercier mes invités de leur temps et de leur patience.
Merci à vous.
Merci pour l'invitation.
Merci.
Et donc, à tout de suite pour le débat sur les gilets jaunes.